TV vous présente Parole de femme, le rendez-vous des femmes avec Annabelle pour vivre sa foi au quotidien.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femme. Cette semaine, nous parlons de la dépendance affective. Et aujourd'hui, nous allons voir les dangers de la dépendance affective. Et nous sommes avec notre invité, le pasteur Omer Kabouya. Bonjour, pasteur Omer.
Bonjour, Annabelle.
Bonjour,
Omer. Aurélie. Bonjour, très chère Nadine, encore une fois.
Qui n'est autre, pour ceux qui ne le savent pas, le mari de Nadine Kabouya.
Ah,
donc, Nadine, tu m'avais dit, je pense que Omer serait vraiment bon pour faire une série sur la dépendance affective.
Oui, oui.
Et je te dis merci parce que...
Tu n'avais pas tort.
Tu n'avais pas tort. Parce qu'on a commencé juste hier, mais il y a déjà eu beaucoup de choses de dites. Et comme on l'a dit hier, la dépendance affective, le mal de l'âme, en fait, tout simplement, n'est pas un mal qui est malheureusement, quelque part, réservé ou vécu juste par les femmes. C'est aussi vécu par les hommes. Et c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir un homme avec nous sur ce plateau pour nous parler de la dépendance affective ou de la dépendance émotionnelle. Et aujourd'hui, donc, on va voir les dangers de la dépendance affective. Et on va commencer en fait en reparlant de ce fameux mal de l'âme, une âme qui souffre, une âme qui est en souffrance. Finalement, qu'est-ce que c'est?
Premièrement, je veux rassurer nos auditeurs et ceux qui nous suivent pour vous dire premièrement que Dieu vous aime. Vous avez été créés à l'image de Dieu. Au psaume 139, le verset 13 à 15, le psalmiste dit: c'est toi qui as formé mes reins, mes sentiments ou mes émotions, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'étais fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je veux vraiment vous rassurer que Dieu vous aime, Dieu vous a créé, Dieu a créé vos émotions au départ. Mais en grandissant, l'âme subit des chocs dans la famille, des chocs dans la société, et cette âme devient une âme déformée, ou dans un autre terme que j'utilise, une âme trouée. Et une âme trouée, c'est simplement une âme, on peut voir l'âme comme étant un seau qui doit recevoir de différentes personnes au fur et à mesure que nous évoluons. Mais ce seau, lorsqu'il est troué, tout ce qu'on y déverse ne va pas rester. C'est pour cela que les personnes qui souffrent dans le domaine de la dépendance affective, ça ne sera jamais assez pour eux. Et ils vont toujours en demander plus parce que ça ne sera jamais assez, parce que, en fait, l'âme est malade. Et la dépendance affective fait partie d'une des maladies de l'âme. Et souvent, on prie pour notre corps, on prie pour notre esprit, mais on ne s'intéresse pas. Or, la plus grande partie des problèmes de l'homme se situe au niveau de l'âme. C'est pour ça que dans Luc, chapitre 4, le verset 18, quand Jésus s'annonce, la plus grande partie de l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a moins, la plus grande partie, si on le lit bien le texte, c'est dans l'âme que ça se situe. Et puis, il cite une petite partie pour l'Esprit, annoncer la bonne nouvelle aux prisonniers, et l'autre partie à la fin, il va citer pour la guérison physique, mais la grande partie, c'est la guérison de l'âme. Et j'aimerais vous parler pour vous dire que Jésus veut vous guérir aujourd'hui. Il veut commencer un processus de libération, de guérison et de rééquilibre de votre âme.
Amen. Et l'erreur qu'on peut faire souvent quand on parle de l'âme, c'est de penser que l'âme est mauvaise, en fait. Mais comme pasteur Omer a dit, l'âme n'est pas mauvaise, en fait. C'est ce qui est à l'intérieur qui nécessite parfois des interventions, etc. Mais l'âme en elle-même, elle est super. C'est là où il y a toutes les émotions dans notre âme, c'est là où il y a notre mémoire, c'est là où il y a toutes ces choses-là. Et justement, quand on comprend cela, ben, on peut aller à la source, rechercher dans cette âme ce qui ne va pas, ce qui fait passer ce qui est bon et qui garde finalement ce qui n'est pas bon, et éliminer ces choses-là au travers de la parole de Dieu.
Je l'ai dit aussi dernièrement, mais on avait fait toute une série sur l'âme. à l'époque où justement on expliquait que l'âme, c'était une bonne chose. Mmh. Et les émotions aussi sont des bonnes choses. Mmh. Et tu l'as dit hier, on a tendance à féminiser les émotions. On a tendance à féminiser et à affaiblir aussi les émotions, mmh, en donnant un côté très péjoratif. Tu en avais parlé aussi dernièrement, Nadine, dans une série qu'on a fait, Apprendre à exprimer ses émotions. Mais les émotions, ce sont des choses tout à fait normales. Dieu nous a créés avec des émotions. Les émotions sont belles, les émotions ont leur utilité. Mais après, c'est comme toute chose dans la vie. Il faut savoir les comprendre, mettre des mots dessus, savoir les utiliser, savoir les exprimer. Et puis aussi savoir les maîtriser, en fait. C'est comme de manger, c'est super de manger. Bon, Pasteur Omer a donné un exemple hier sur le soleil. Mais moi, dans la nourriture, ça me parle plus. Non, mais c'est super de manger. On a été fait pour manger. Dieu a créé la nourriture pour nous et pour qu'on puisse y prendre plaisir. Mais manger de façon déséquilibrée, ça peut apporter des problèmes dans notre corps. Ça peut apporter des déséquilibres. Ça peut apporter tout un tas de choses. On tombe dans de la gloutonnerie. Et c'est en fait ces excès, un excès de mauvaises émotions, une mauvaise gestion des émotions. C'est là le problème. Mais les émotions en soi ne sont pas problématique. Mmh. Et c'est ça vraiment qu'on doit saisir. Et dans la dépendance affective, c'est qu'il y a eu une mauvaise gestion, une mauvaise compréhension, une mauvaise utilisation des émotions. Mais on va en parler cette semaine. On n'est pas en train de bannir l'amour, on n'est pas en train de bannir l'interdépendance, comme Rachel Dufour en a parlé hier. On n'est pas en train de bannir l'affection aussi. C'est normal de s'aimer, d'avoir des attentes des autres, mais qu'elles ne soient pas démesurées, en fait. Et une des choses dans la dépendance affective, un des dangers, c'est vraiment les relations toxiques.
Oui, effectivement. Et avant même de venir aux relations toxiques, c'est qu'on doit comprendre que quand nous sommes en train de nous développer en tant que personne, ben, si justement l'âme a été mal nourrie, pour revenir à l'exemple de la nourriture, ben, elle s'habitue à manger ce qu'on appelle de la malbouffe, en fait. Mm-hmm. Au lieu de manger, ce qui l'emmène à grandir, à s'équilibrer, elle s'habitue à manger de la malbouffe. En fait, elle est trompée parce qu'elle pense que la malbouffe, c'est ça qui lui donne la santé. Et quand elle mange cette malbouffe, elle est rassasiée pour un temps. Mm-hmm. Donc, elle a l'impression que, OK, j'ai mangé ce qu'il faut, mais en réalité, elle mange des choses qui vont lui donner du cholestérol de l'âme, problème de cœur de l'âme, etc. Elle devient obèse, mais elle n'a pas grandi. Et beaucoup de gens sont dans un corps d'adulte, mais avec une âme ou une expression d'émotion d'enfant. Mm-hmm. Ils aiment comme des enfants. Mm-hmm. Et dans la thérapie pastorale, on le voit souvent. Et j'étais avec une personne à un moment donné, en parlant avec la personne, et la personne est une adulte. Mais je lui ai dit, mais le Saint-Esprit me révèle que tu as arrêté de grandir dans ton âme à l'âge de 8 ans. Mm-hmm. Il y a un événement qui s'est passé dans ta vie. Et la personne me dit, non, il n'y a rien qui s'est passé. Je dis, OK. Vous savez, comme pasteur, on est prudent. Hein? 2 ans plus tard, la personne me revient pour me dire, oui, à l'âge de 8 ans, voici ce qui est arrivé dans ma vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la personne a oublié l'événement. Mais quand on vit des choses comme ça et qu'on ne le sait plus ou qu'on a subi des événements, c'est ça qui fait maintenant que les relations toxiques deviennent comme une malbouffe pour l'âme. Et vous allez voir, les gens, ils vont du même type de relation au même type de relation. Pourquoi? Parce que l'âme a été trompée. Et quand l'âme est trompée, ben, émotionnellement, on pense, on a plus de discernement. Donc, voilà. Donc, maintenant, revenons aux relations. Donc, finalement, les relations, quand on parle de relations toxiques, en fait, ce sont des relations qui ne sont pas bonnes pour nous, qui ne sont pas bonnes pour nous. Et on s'attache à ce type de personnes parce qu'au début, ces personnes semblent nous nourrir. Mais ce qu'on oublie, c'est que quand on est dans une relation toxique, ça prend 2 personnes. Mm-hmm. Une personne qui est capable de subir et une personne qui est capable de recevoir à l'excès. Mm. C'est un peu comme l'image, j'aime bien quand on regarde ça à la télé, du rhinocéros qui est très fort, ou de l'hippopotame qui est gros, très fort, mais qui peut jamais enlever la petite bête qui est sur son dos et qui a besoin d'un petit oiseau qui va venir grignoter dessus. Et dans une relation toxique, les gens qui ont des problèmes au niveau de l'âme vont souvent dans des relations toxiques. Pourquoi? Parce que déjà, au départ, elles manquent de discernement, elles ont besoin de cet amour à l'excès et elles vont tomber sur quelqu'un qui est contrôlant, abusif, etc. Et souvent, dès le début des fiançailles, les signes sont là. Mais j'ai tellement besoin d'être aimé. J'ai tellement besoin, non seulement d'être aimé, mais de donner de l'amour aussi, que je ne vois pas ces signes-là. Et c'est pour cela que les gens rentrent dans des relations toxiques.
D'ailleurs, Pasteur Omer, le caractère répétitif peut être un bon baromètre pour les personnes qui nous écoutent pour se dire, mais si je me retrouve toujours dans ce cycle-là, ça veut dire que peut-être au niveau de mon âme, il y a quelque chose que je dois travailler. Parce que parfois, sans le savoir, effectivement, les gens se retrouvent dans des cycles répétitifs au niveau de leur relation, que ce soit amoureuse ou même amicale. Mm-hmm. Et ça, c'est vraiment un signe pour dire, pour sonner la sonnette d'alarme, en fait.
Et souvent, on pense que les gens qui se retrouvent dedans, c'est ceux qui sont bêtes, qui ne sont pas éduqués. Mais souvent, on va trouver des hommes intelligents. Dans une société, cette personne dirige un département. Dans une église, cette personne dirige un département. Donc, vous la regardez, humainement parlant, elle semble saine, elle semble bien. Mais quand on va du côté de son âme, l'âme est malade. Et ça, j'aimerais bien qu'on le caractérise pas en se disant que ça se limite à une catégorie de personnes, mais ça peut atteindre toutes les personnes et plein de personnes, en fait, en souffrent. Et voilà pourquoi ils vont du même type de personnes au même type de personnes. Ça revient à l'exemple qu'on a dit. On est habitué à manger de la malbouffe. Mais quand on roule sur l'autoroute, on repère tous les malbouffes, les restaurants de malbouffe. on les repère parce que notre âme est habitué à manger cette nourriture. Et ce qu'on veut aujourd'hui dans cette série, c'est de changer le type de plat, changer le type de régime alimentaire de l'âme pour que l'âme retrouve son équilibre. Et il n'y a que Dieu qui peut le faire.
Ouais. Il n'y a que Dieu qui peut le faire et c'est le Saint-Esprit qui nous le montre. Et je pense que c'est important pour les gens qui écoutent, en fait, parce que des fois, on est dans le déni par rapport à nous-mêmes. C'est plus facile d'identifier un problème chez l'autre, mais on est dans le déni par rapport à nous-mêmes. On va peut-être se dire, tiens, cette amitié que j'ai perdue, c'est parce que c'était sa faute, elle avait fait. Cette relation, c'était parce que c'était sa faute, etc., etc. Mais vraiment qu'aujourd'hui, qu'il y ait juste une petite lueur. Et c'est cette petite lueur-là, si déjà nous-mêmes, on ne peut pas combattre quelque chose qu'on n'a pas identifié. Et si déjà nous-mêmes, cette petite lueur s'allume, on se dit, tiens, est-ce que ce ne serait pas moi? Est-ce qu'il n'y a pas un fil conducteur? Est-ce qu'il n'y a pas une répétition, un pattern dans ce que je suis en train de faire? Et c'est là, comme on a dit, ce n'est pas parce que la personne elle a un niveau d'éducation plus bas. C'est n'importe qui, en fait. Ça veut dire que ça peut être un événement, peut-être que toi et ta sœur, vous avez tous les deux grandi dans la même famille, avec les mêmes parents, la même éducation, mais vous avez pris, tu vois que ta direction n'est pas la même que l'autre. Ah tiens, peut-être que j'ai vécu quelque chose. Peut-être ma première relation m'a troublée ou je me suis sentie que non, je ne suis pas assez. Et là, du coup, je suis toujours dans un rythme où est-ce que je dois toujours faire plus, plus, plus. Et vraiment, c'est important d'identifier, ouais. Chercher la petite lueur pour se dire,
amen.
Est-ce que c'est moi? Suis-je dépendante affective? Est-ce que cette attente que j'ai envers la personne en face de moi, est-ce qu'elle est normale? Est-ce qu'elle est correcte? Ça fait partie d'une réciprocité saine? Où il y a quelque chose de plus.
Il ne faut pas se sentir justement trop grand pour au point de penser que ça ne peut jamais nous arriver. Quoi. Là, le pasteur Omer, il dit même, tu peux être intelligent, super intellectuel, tu peux être responsable dans une église et ton âme est malade. Donc, tu ne peux pas juste sur la base du fait que tu es responsable te dire, ça ne me concerne pas en fait. Donc, ce qu'on est en train de dire ici, c'est de dire ce que tu dis Nadine, comme tout le monde peut être concerné potentiellement. Et l'idéal, justement, c'est de se dire, est-ce que moi, je suis concerné par cette affaire et de ne pas mettre nos titres, nos capacités intellectuelles ou tout ce qui nous entoure pour dire, non, moi, ça peut jamais m'arriver. Parce que, comme le pasteur l'a dit, le côté intellectuel ne signifie pas qu'on n'est pas dépendant affectif.
Et ce que Satan ne veut pas qu'on se pose cette question en se disant, est-ce que je suis? C'est pour ça que j'aime le psaume 51, quand David dit « Sonde-moi, ô Dieu ». Voilà, jette la lumière sur moi, parce que moi de moi-même, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a un malaise, il y a quelque chose en moi qui fait qu'il y a des cycles répétitifs dans ma vie, il y a quelque chose en moi qui fait que je souffre, mais je ne sais pas pourquoi je souffre. Et la chose qui fait mal dans la vie, c'est de souffrir, mais sans savoir pourquoi je souffre. Pourquoi est-ce que je semble être comme un aimant qui attire juste les mauvaises personnes? Pourtant, je suis intelligent, mmh. je suis éduqué, mmh. je suis brillant dans tous les domaines. Mmh. Mais quand il arrive là, dans ça ici, j'attire les... Et c'est ça, en fait, qui c'est les signes que Dieu essaie de nous réveiller. Maintenant, réveille-toi. Réveille-toi, parce que si tu ne te réveilles pas, la vie va te passer comme un train. Mm-hmm. Tu iras peut-être au ciel, mais tu auras souffert sur la terre. Mm-hmm. Et donc, je crois que Dieu est en train de vouloir parler à quelqu'un pour dire, réveille-toi. Mm-hmm. Et quand on parle maintenant des relations au niveau des amitiés, Nadine a parlé de l'important du fil conducteur. Quand toutes nos amitiés se terminent toujours de la même manière, mm-hmm. en apothéose de problèmes. Alors là, je pense que il faut se poser la question parce que de toutes ces amitiés, le fil conducteur, ben, c'est toi. Mm-hmm. Et à un moment donné, il faut arrêter de pointer le doigt à l'extérieur mm-hmm. pour le retourner maintenant vers nous, au miroir de la lumière de Dieu, au miroir de la parole. Alors maintenant, nous pouvons nous voir maintenant et le Saint-Esprit peut maintenant nous aider à ne pas être cet ami accaparant, étouffant, qu'on doit s'appeler tous les matins, on doit dans toutes les choses ensemble. Mm-hmm. Comment on va le reconnaître aussi? C'est quand on est avec quelqu'un, que quand la personne, je sais que ce que la personne fait est mal, mm-hmm. mais au nom de l'amitié, nous pouvons nous mettre ensemble pour aller faire un mauvais coup, pour écraser quelqu'un. Et je sais pertinemment que cette personne, ce qu'elle fait est mal, mais parce que je veux garder son amitié. Mm-hmm. Et là, c'est là qu'on reconnaît mm-hmm. que la relation, elle est toxique, mm-hmm. elle n'est pas bonne pour mm-hmm. moi.
Et ça nous amène dans d'autres dangers, parce que bon, mm-hmm. les relations, c'est vraiment important. Dieu a mis des gens autour de nous, pas pour notre destruction, mm-hmm. mais pour notre bonheur. Il y a des défis dans les relations, mais il y a pas, on n'est pas obligé d'en arriver à des destructions, à des déchirements et à tout ce qu'on peut expérimenter malheureusement quelquefois dans certaines situations parce que justement il y avait un autre problème que l'autre dans la relation qui était peut-être moi. Mm-hmm. C'est en fait le fait de ne pas pouvoir répondre à l'appel de Dieu ou de tomber dans le compromis parce que l'autre a pris trop de place dans ma vie. Mm-hmm. Parce que lorsqu'il me propose quelque chose qui va contre mes propres convictions, je dis oui. Parce que lorsque Dieu me parle, je ne sais pas quoi lui dire parce que je ne sais pas ce que mon ami va lui dire. Je ne sais pas ce que ma femme, ce que mon mari va dire. Du coup, je n'arrive pas à dire oui à Dieu. Je suis toujours entre deux. Et là, c'est comme tu l'as dit, le train va passer. On va peut-être aller au ciel. Mais qu'est-ce qu'on aura fait de notre vie sur cette terre?
Effectivement. Et là, on le voit beaucoup, en fait, dans le milieu chrétien. Et j'aimerais vous dire que quand on en arrive là, en fait, vous avez une idole dans votre vie. Mm-hmm. Il y a des parents qui ont idolâtré leur enfant, idolâtré leur conjoint, idolâtré leur pasteur, idolâtré un membre de la chorale, etc. Et ça devient cette personne maintenant qui décide pour vous. Et cette forme d'idolâtrie, c'est ce qui va nous empêcher justement à rentrer dans ce que Dieu a pour nous. Voilà pourquoi quand Dieu appelle Abraham, le mot-clé, quand Dieu appelle Abraham, c'est « quitte ». Mm-hmm. Va-t'en, mm-hmm. quitte, va-t'en, mm-hmm. quitte, coupe les relations du passé, va-t'en. Et souvent, c'est là, ce n'est pas quand on est dans la relation, c'est quand Dieu commence à nous demander de quitter. Mm-hmm. C'est là qu'on se rend compte, en fait, à quel point on est attaché.
On est attaché.
Parce que Satan, il est malin, il met une corde, mais il la laisse, comment dire, loose, un peu longue. Mm-hmm. Donc, tu marches en pensant que tu es libre. Mm-hmm. Le lion ne sait pas qu'il est dans une réserve jusqu'à ce qu'il atteigne
La clôture,
c'est là qu'il saura, oh, j'étais pas vraiment le roi de la jungle. J'étais encore attaché. Et c'est ce que Satan fait avec plusieurs personnes. Il va t'offrir une relation. Tu sauras jamais que la relation est toxique jusqu'à ce que tu décides de faire la volonté de Dieu.
Et je crois que même quand on parle de ne pas faire la volonté de Dieu, des fois, il y a des gens qui sont... je parle de la personne qui est dépendante affective. Parce qu'elle se nourrit de cette relation, elle se dit, en fait, je suis bien. Mais en fait, tu es en train de te faire voler quelque chose de beaucoup plus grand. Tu restes dans cette relation qui est toxique, qui est nocive pour toi, mais dans lequel vous jouez cette espèce de danse, cette espèce de valse où tu donnes, voilà, et tu reçois, parce que tu fais des efforts, et puis la personne, elle est ton centre d'attention. Mais quand tu élèves cette personne comme une idole dans ta vie, mais comment est-ce que tu peux regarder Dieu qui est supposé être celui qui va réellement te remplir? Et c'est comme ça que tu as des personnes qui vont passer totalement à côté du plan de Dieu pour leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils se sont attachés, ils sont restés à cet endroit, dans cette amitié qui est totalement nocive, dans cette relation qui est totalement nocive. Et en fait, ils sont en train de perdre leurs années, de perdre un temps précieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont, au lieu de faire l'effort, puis ça prend un effort, de dire oui Seigneur, c'est vrai que j'ai un souci, j'ai un problème, et de laisser Dieu nous travailler notre cœur pour qu'on puisse voler de nos propres ailes, pour qu'on puisse faire des choses extraordinaires. Mais pour, au lieu de faire cet effort-là, bon, on reste là avec cette personne qui nous fait du mal. Et peut-être au bout de 5 ans, ça tombe. Et puis bon, on va se trouver quelqu'un d'autre. On va se trouver une nouvelle amie avec qui on va s'attacher encore pour 2 ans, 3 ans. Et puis après, les cycles se répètent.
Et même, il y a aussi quelque chose, c'est que ça ne peut pas fonctionner par rapport au plan de Dieu. Parce que l'on parle du plan de Dieu. Nous tous, on a un appel, etc. Mais moi, je vois le plan de Dieu comme juste pour chaque jour de notre vie, Dieu a prévu des projets de paix et des projets de bonheur.
Oui.
Mais la paix, c'est justement ce que tu n'as pas dans une relation où tu es en dépendance affective. Parce que tu vis par rapport à une autre personne qui est un homme. Mm-hmm. Mais l'homme va te décevoir, même si cette personne est gentille. Mm-hmm. C'est pas la personne qui le veut forcément. Mais derrière des actions, derrière différentes choses, cette personne va te décevoir à un moment ou à un autre. Et là, tu vas perdre ta paix. Tu vas perdre... j'ai même vu que les personnes dépendantes affectives, elles font des scénarios, en fait, juste pour se faire accepter par l'autre. Mm-hmm. D'autres vont faire des crises de larmes, des créer des choses qui n'existent pas. Mais là, on n'est plus dans un projet de paix.
Non.
On est dans une vie trouble. Et ce n'est pas ça le plan que Dieu a pour notre vie en tant qu'être humain. Nos journées, selon Dieu, doivent être des journées bonnes, des journées agréables, des journées parfaites. Pas des journées là où on se questionne sur l'autre, où on se cracasse en fait l'esprit pour trouver, pour faire plaisir à quelqu'un à côté. Mm-hmm. Donc juste au niveau même du plan de Dieu pour notre journée, on passe à côté. Et c'est comme ça qu'on vit une vie finalement qui n'était pas la nôtre parce qu'on a décidé de rester dans la dépendance affective.
Mais maintenant, qu'est-ce que la Bible dit justement par rapport à l'âme? Au psaume 142, le verset 7, David fait une prière. David dit, tire mon âme de sa prison. Il dit, afin que je célèbre ton nom. Vous voyez, tant que l'âme est dans la prison, notre vie n'est pas une vie qui plaît à Dieu en fait. Il dit, afin que je célèbre ton nom, les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Mais quel est l'élément déclencheur? C'est que l'âme sort de sa prison, je peux louer Dieu, je peux vivre une vie qui plaît à Dieu, je peux vivre une vie d'adoration, mais ensuite de ça, mon cercle proche y change. Il y a vraiment une conséquence quand on accepte ça. Et donc, il y a beaucoup de gens, quand on vit dans la dépendance affective, c'est qu'on ne sait pas et que Satan ne veut jamais, et ça, je n'arrête pas de le dire aux gens en thérapie pastorale, Satan ne veut jamais que vous sachiez que vous êtes en prison. Mais j'aimerais vous annoncer que vous êtes en prison, mais Jésus est venu pour libérer les captifs.
Amen.
Le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable.
Amen.
Et si vous êtes en prison, voici ce qui se passe dans les relations toxiques. Donc, quand vous êtes en besoin d'affection constante, c'est que premièrement, votre âme est déformée. Et aussi longtemps que vous allez répéter ces cycles-là, en fait, de plus en plus, l'âme se déforme. Elle se déforme de plus en plus parce qu'elle mange de cette relation, de ces relations toxiques que vous entretenez autour de vous. Mais aussi, vous grandissez de plus en plus avec un sentiment constant de peur, d'infériorité. C'est comme si je dois toujours être en dessous des autres, alors que parfois, Dieu vous a appelé à des plus grandes choses. Si Joseph avait des problèmes de au niveau des relations affectives, il aurait accepté la femme de Potiphar. Mais il était plus grand que la femme de Potiphar. Parce qu'il était plus grand, qu'il voyait sa destinée. Elle a dit, non, moi, je ne me nourris pas de la malbouffe. Je veux me nourrir de ce que Dieu a pour moi. Et donc, l'âme est prisonnière. Et parce qu'elle est prisonnière, elle ne peut pas se développer adéquatement. Or, beaucoup de gens cherchent l'onction sans chercher la guérison de l'âme. Quand l'onction vient dans une âme qui est malade, on finit comme Samson. On finit avec des yeux crevés et on meurt avant son temps. Dieu veut d'abord guérir l'âme. Je m'excuse si mes termes sont un peu...
C'est biblique.
Dieu veut d'abord guérir notre âme. Dieu d'abord intéressé à... Dieu veut d'abord guérir l'âme avant de donner l'onction. Parce que l'onction dans une âme malade fera que même nous, dans le ministère, on devient abusif. On devient des serviteurs de Dieu qui ont tellement besoin que tout le monde... Combien de vues j'ai eues sur ma dernière vidéo? Combien de personnes me suivent? Alors, je fais toujours des choses pour pouvoir quoi? Attirer l'attention sur moi. je détourne l'attention et la gloire qui revient à Dieu. Et la gloire devient à moi. Or, le psalmiste dit, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Donc, si nous voulons être aussi des serviteurs de Dieu équilibrés, nous devons apprendre à être des gens dont Dieu guérit constamment l'âme.
Amen. Et comment demain, on va continuer et on va identifier les schémas et aussi détruire ces schémas qui sont tout le temps propice en fait pour que justement l'âme reproduise constamment les mêmes scénarios. Et on va parler de façon très pratique, très concrète, comment briser ces schémas, comment couper certaines relations, comment s'éloigner de certaines personnes. Et lorsque on est en prison, lorsque nous sommes un prisonnier, votre entourage, c'est des gardiens de prison, c'est des gens qui s'assurent que vous n'allez pas sortir, c'est des gens qui s'assurent que vous connaissiez vos limites. Et ces limites, c'est les limites de la prison. Et c'est aussi des visiteurs, c'est des gens qui sont libres, qui viennent vous voir, mais qui repartent. Et si votre vie est composée de personnes qui s'assurent constamment que vous sachiez que vous ne pouvez pas aller plus loin sans eux, que vous ne pouvez pas vivre sans eux, attention, ce sont des gardiens de prison. Et si vous voyez des personnes qui sont saines, des personnes qui sont équilibrées, vous vous dites, ces personnes, elles ont l'air bien, j'aimerais être comme elles, mais qui ne font que passer, vous visiter, c'est parce que vous-même, vous êtes dans une prison et ces personnes ont reconnu qu'il y avait un milieu, un environnement toxique, et c'est pour ça que ces personnes repartent. Alors, si vous êtes entouré de ce genre de personnes, c'est aussi un indicateur que le Saint-Esprit vous donne aujourd'hui pour vous dire, tu n'es pas libre, tu es en prison. Tu as atteint là, aujourd'hui c'est le jour où tu découvres qu'il y a une clôture, tu découvres qu'il y a une chaîne à ton pied. Mais comme nous l'avons dit, Jésus est venu pour te libérer. Il est venu pour libérer les captifs. Il n'y a aucune honte si jusqu'ici tu as été captif, car aujourd'hui c'est le jour où Jésus vient te délivrer. Jésus vient briser cette chaîne de la captivité. Il te dit, sors, tu as été affranchi, tu as été libéré. Jésus a payé le prix pour cette liberté. Cette chaîne n'a plus aucun de pouvoir sur toi, elle est brisée. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, et nous déclarons, oui, tu es libre aujourd'hui, tu es libre de sortir de cette prison, aucun gardien ne pourra te retenir. Alors, on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Nous vous aimons et nous vous bénissons.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes sur emcitv.com.